autodidacte. Exact.
Autodidacte, c'est des contrats.
Autodidacte, c'est des contrats.
Grâce à Autodidacte, on a la patate.
Bienvenue sur Artodidacte, diffusé par Radio Primitive à Reims, 92.4 en FM et partout ailleurs sur les internets. Au programme aujourd'hui, des interviews des stagiaires qui nous font le plaisir et l'honneur de participer à des stages d'été au centre de jour Antonin Artaud. Quelques actualités de la psychiatrie et des résultats sportifs, avec notamment les résultats des médailles des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et des Paralympiques, mais qui ne sont pas terminés. Du coup, on fait comme on peut, quoi. On était quand même très surpris qu'ils aient déjà 25 médailles. 50 médailles, vous disiez, les Chinois ? 45 médailles à l'heure qu'il est. Et on fait signe qu'il est déjà l'heure de rendre l'antenne, parce qu'on voilà, on a d'autres choses à faire par la suite. Merci.
Artodidacte, c'est des contrats.
Pour commencer, Laure nous raconte pourquoi la présence de stagiaires au centre de jour Antonin Artaud.
Au centre Artaud, on a une longue habitude, expérience de recevoir des stagiaires, alors tout statut confondu, depuis de longues années. Alors tout au long de l'année universitaire, on reçoit des stagiaires évidemment infirmiers, éducateurs, psychologues, internes, externes. Et puis depuis plus d'une dizaine d'années, alors je ne saurais pas dire exactement combien de temps, on a pris l'habitude de recevoir des stagiaires d'été, donc on organise un stage d'été qui dure à peu près 4 semaines, ça a déjà été plus ou moins, et l'idée là c'est de proposer à des personnes qui n'ont pas forcément de statut d'étudiant de venir passer quelques temps avec nous pour partager ce qu'on appelle la vie quotidienne.
Alors bonjour à tous, comme vient de dire Laure, on a reçu plusieurs stagiaires d'été. Là, il nous en reste 3. Donc, je vous propose à chacune de vous présenter, de nous dire d'où vous venez, ce que vous aimez.
Bonjour, alors moi, je m'appelle Flore. Je viens de Saint-Denis. J'habite actuellement à Saint-Denis, dans le 93. J'ai eu une formation d'artiste et j'ai, l'année dernière, monté un studio radio dans une école primaire. Et donc, je suis au centre Artaud pour 2 semaines. Donc là, c'est ma 2e semaine comme stagiaire d'été.
Bonjour, je m'appelle Mariana. Je suis d'origine brésilienne. Ça fait à peu près 15 ans que j'habite à Paris. Suite à une reconversion vers la psychologie, j'ai pris connaissance du centre Artaud. Et je me suis intéressée de venir, de faire la rencontre avec vous et de partager nos expériences.
Bonjour, je m'appelle Daniela, je viens du Chili, de Valparaíso. Je suis psychologue, je suis arrivée ici en France il y a un mois pour faire le stage d'été ici.
Qu'est-ce qui vous a motivée à venir à Artaud?
Je pense que j'ai bien aimé le type de liens qui peuvent exister dans un espace comme ça. D'un côté, quand il y a des dispositifs hospitaliers plus fermés, il y a seulement la relation entre les soignants et les personnes qui vont au centre, mais pas vraiment entre les patients. Il n'y a pas d'espace collectif pour tisser des liens de solidarité. Et ici, j'ai trouvé beaucoup ça, de solidarité, de vraies relations aussi, c'est un espace pour se rencontrer en général. Et aussi, je trouve que dans l'idée de la psychiatrie plus classique, il y a quelque idée de la neutralité, compris comme pas s'engager dans les relations, pas montrer rien de soi-même. Et je trouve qu'ici, les liens sont plus authentiques, qu'on peut vraiment mettre quelque chose de soi, de son histoire, de les choses qu'on aime bien, pour entrer en relation avec les autres. Donc, c'est beau, ça, je trouve.
Est-ce que vous avez remarqué des différences vraiment notables entre la pratique dans vos pays et ce qui se passe ici, au centre Artaud?
Oui. Au Chili, par exemple, premièrement, je crois que c'est vraiment différent le thème de l'argent, de le système de santé publique. C'est très précaire, je crois que c'est une première différence. Mais aussi, il n'y a pas beaucoup de manières de travailler proposées dans la santé publique d'une manière plus ouverte, plus où il y a la communauté, le collectif. C'est beaucoup plus la psychiatrie, de la consultation individuelle, de seulement faire gaffe à les traitements pharmacologiques. C'est une chose très très nouvelle à penser qu'il y a quelque chose dans les collectifs et dans les relations qui peut aussi nous soigner tout. Donc c'est vraiment émouvant pour moi d'être ici pour apprendre quelque chose de ça, pour après l'apporter à mon pays, voir qu'est-ce qu'on peut faire.
Je me suis intéressée déjà à la question du système de santé, j'étais déjà en France. Mais c'est ce que je sais, ce qui se passe au Brésil, il y a deux points, un positif et un négatif. Le négatif, c'est que la question de thérapie, ça s'inscrit soit dans un cadre très individuel, soit dans un cadre très précaire auquel on ne peut pas trouver tous les moyens qu'on a en France pour soigner la population. Et les thérapies les plus avancées, elles s'inscrivent, c'est la thérapie qu'on peut dire institutionnelle, elle s'inscrit dans une démarche qui s'inscrit à l'Italie, qui c'est l'abolition des hôpitaux psychiatriques. Par l'autre question, c'est ce que je trouve qui s'est plus avancé au Brésil, c'est toutes les conséquences des souffrances émotionnelles, psychiques, qui peuvent causer les différences sociales, la question du racisme, la question du féminicide, de plusieurs thématiques. Problématiques qu'on trouve dans la société. Je trouve qu'au Brésil, on est plus avancé sur ces discussions.
Moi, je suis surprise par rapport à la réponse de Mariana par rapport à la psychiatrie au Brésil. Parce qu'il y a quelques années, enfin, il y a 10 ans à peu près, on avait reçu une stagiaire qui s'appelait Adrieli, avec qui je m'entendais bien, et qui m'expliquait que maintenant, au Brésil, en fait, on parle beaucoup du Centre Artaud et de la façon de parler du Centre Artaud, et c'est même l'université dans laquelle elle était qui leur a parlé du Centre Artaud. Alors, si on est dans un état où on est assez ouvert dans l'université et qu'à côté, c'est pas... Enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ça m'a fait bizarre d'entendre qu'au Brésil, ben, en fait, par rapport à ce qu'elle m'avait vendu comme rêve, ben, c'est pas trop la réalité. Ou alors, est-ce que c'est parce que c'est un pays tellement grand qu'il y a beaucoup de diversité, même par rapport aux soins ? Mais ça m'a fait bizarre.
J'aimerais compléter la question parce que j'avais des retours sur la psychiatrie au Brésil où justement j'avais cru comprendre que ça s'était basé dans la psychiatrie publique, ce qu'on m'en avait raconté. C'était même des villes qui s'étaient créées autour des hôpitaux. Et justement, je voulais poser la question un peu dans le prolongement de la question d'Alice, de cette temporalité un peu d'arrivée de ce mouvement antipsychiatrique et de savoir un petit peu comment ça s'était passé, parce que j'avais des retours un peu inverses. Mais bon, peut-être aussi avec l'étendue du pays qui est vraiment très très grand, il y a sûrement des particularités selon les régions. Et...
Parce que comme j'ai dit au départ, ma reconversion, ça s'est passé en France et pas au Brésil. Et donc... à niveau de la différence, je commence par Alice et je reviens. Il y a une énorme différence entre l'enseignement qu'on a à l'université et la réalité concrète de l'État brésilien à niveau de financement de l'État pour la santé publique. Donc, en théorie, et des mouvements qui sont intéressés à faire bouger des choses, ça existe. C'est pas seulement à l'université, mais aussi dans des mouvements sociaux. Des mouvements sociaux qui vont aussi dialoguer avec la question des politiques publiques qui va garantir en fait du financement de l'État pour la santé. Mais il y a encore un gros trou entre ce qu'on souhaite et la réalité du pays. Sans dire que le Brésil il est énorme. Donc, quand je suis arrivée en France, je ne croyais pas qu'on pouvait traverser, sortir de la France avec 1 heure de train. Au Brésil, ça n'existe pas. Par exemple, je suis de São Paulo pour aller à Rio, qui s'est collé, c'est 6 heures de voyage, alors qu'ils sont côte à côte. Vous imaginez qu'est-ce que c'est traverser le pays. Donc les relations sont assez différentes selon l'état et l'autre. Et par contre, il y en a aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler les CAPS, qui c'est les instituts qui va ressembler à ce qu'on a ici, la question de l'hôpital de jour, de comment de CMP, de CATTP, qui a une initiative récente, hein, des années 90, si je ne me trompe pas, il est si peu que je me trompe dans les dates, et que ça va dialoguer. Alors, entre ça et les mouvements antipsychiatriques, ils commencent dans les années 70. Et c'est là qu'ils ont un dialogue très fort avec les mouvements de l'Italie. Et ces mouvements, ils persistent.
Merci, Mariana. Et maintenant, une petite pause musicale. And when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Après cette interlude, on reprend l'interview avec Marie-Laure, une question sur le racisme.
Vous trois qui vous êtes arrivés en stage, est-ce que vous avez trouvé, même si ce n'est pas ici, mais dans votre vie, est-ce que vous avez trouvé des gens qui vous ont parlé du racisme, qui étaient racistes avec vous ici en France?
Oui, je pense que... J'ai déjà vécu du racisme en France, oui. En tant que femme, noire, étrangère, des classes ouvrières, c'est impossible de ne pas traverser par ces questions.
Est-ce que vous avez fait l'expérience de vous sentir étrangère ?
Quand j'étais... En fait, je suis née en Belgique et je suis arrivée en France enfant. Et ce qui est marrant, c'est que dans le village où je suis arrivée, en France, comme je venais de Belgique et que je n'étais pas dans ce bain, voilà, j'avais pas d'amis d'enfance, j'avais pas de tissu social à ce moment-là, ben, j'étais rejetée.
Bon, la première fois que je suis venue en France, c'était l'année dernière pour faire une stage de 2 mois. Et quand je suis arrivée, je savais presque rien de français. C'était beaucoup pire que maintenant. Depuis le début, j'ai trouvé que les personnes n'étaient pas vraiment accueillantes avec cette différence, avec l'étrangérité de la langue. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas une vraie préoccupation de comment faire que les personnes qui sont différentes puissent se sentir dedans, pour se sentir accueillies. Et c'était vraiment difficile au début. Je crois qu'en même temps, il y avait une question tout le temps pour mes origines. Les gens savaient que je n'étais pas français et voulaient savoir d'où est-ce que je venais. Et j'ai l'impression qu'il y avait une manière de rentrer en relation avec moi qui était différente pour cette étrangérité. Et pour moi aussi, c'était difficile de comprendre comment ça marche ici, la culture, la manière de rentrer en relation, les blagues, je comprends pas. Pas toujours, je comprends rien, je sais pas quand rire, je comprends pas. Et oui, c'était choquant pour moi parce que j'étais très habituée à utiliser beaucoup les mots. Je me suis sentie très sécure, très armée avec les mots et j'avais rien de ça. Et j'ai ressenti une expérience que j'avais jamais ressentie, de se sentir complètement je ne sais pas, détabiliser peut-être les mots. Donc c'était intéressant à un niveau personnel et social aussi, c'était une expérience.
Non, c'est ce que je pense, c'est que les thèmes de la rencontre, elle suscite des sujets qui ont été abordés, pas seulement dans l'émission de la radio, mais au cours de cette période des stages, et qui est un de ces thématiques, c'était la question du racisme. Et on trouve que c'est une question qui... c'est un sujet, en tout cas, qui s'y prête à être élaboré, pas seulement d'un côté individuel, mais d'un côté collectif, parce que ça concerne tout le monde. Et ça sera un thème à être approfondi dans une prochaine émission.
Moi, j'avais une question, mais là, vous venez en partie d'y répondre. C'était qu'est-ce que, enfin, en vous-même, qu'est-ce que ça vous fait de voir des gens d'une autre région ? Parce que là, par exemple, vous êtes parti du Chili, vous êtes parti du Brésil, et vous êtes arrivé ici, vous avez été vu comme des étrangers. Comment vous voyez la Belgique, pardon ? Comment vous voyez le fait d'avoir des personnes autres que ceux que vous avez l'habitude de voir ? Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer des personnes étrangères pour vous ?
Bon, pour moi, c'est vraiment différent. La société ici, c'est vraiment différent. Et ça m'a permis de connaître des réalités que je ne connaissais pas, mais aussi de pouvoir regarder les pays où j'habite de loin et de voir d'une manière différente les choses qui sont à laquelle je suis habituée tous les temps. C'est intéressant la distance. La distance pour être ici et pour vous rencontrer, mais aussi la distance pour retourner et rencontrer d'une manière différente les choses que j'ai trouvées familières avant, mais que maintenant, je peux prendre une distance et dire on peut se demander des nouvelles choses sur soi-même aussi.
Moi, je me disais, parce que peut-être toi, tu dis que tu viens de Belgique et que c'est du coup les rapports à l'étranger, c'est pas pareil, mais enfin, je me disais que peut-être la question, c'est la rencontre avec l'étrangeté. Du coup, de venir nous rencontrer, nous, y avait de ça. Et je trouve que ta réponse par rapport au Chili, c'est très parlant, parce que c'est quand on peut se regarder, du coup, dans la rencontre, grâce à la rencontre, on peut se regarder, se retourner sur nous-mêmes. Et c'est ce qui est l'enrichissement de la rencontre. Je trouve ça intéressant.
Bah, en fait, ici, c'est un peu une micro-société où c'est très solidaire, c'est très bienveillant et tout ça. Et je me demandais, est-ce que vous aimeriez que cette, soi-disant, entre guillemets, micro-société soit pareille que à l'extérieur de ces murs, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, en fait ? Qu'est-ce que vous aimeriez ?
Oui, je crois que pour moi, c'est toujours la question de comment faire que les personnes qui sont pour différentes causes marginalisées ou les personnes qui ne sont pas incluses pour être différentes dans différents domaines. Pour moi, l'important, c'est que les groupes peuvent toujours se demander comment accueillir tous les différents et que ce n'est pas la personne qui est différente qui doit s'adapter à la majorité, entre guillemets. Quand je dis la majorité, je ne parle pas nécessairement de la majorité en numéro, la majorité numérique, sinon ça qui est considéré comme normal. Donc je crois qu'ici, c'est un endroit où il y a la possibilité de penser comment accueillir tout ça qui n'est pas forcément considéré l'idéal, d'une manière où on sent que toutes les personnes vraiment ont une chose vraiment importante à donner avec ses particularités et avec ses différences. Et pour moi, ça, c'est un exemple de comment penser les collectifs dans la clinique, dehors la clinique, de vraiment comprendre la différence comme une potentialité, pas comme un problème, qu'il y a quelque chose enrichissant qu'on peut perdre si on ne les voit pas comme ça.
Bonjour pour cette réunion. Donc, très enrichissante, je trouve. J'avais une question à poser. Donc, quel est votre état d'esprit quand vous rentrez chez vous le soir, depuis que vous êtes dans notre pays ?
Oui, j'ai l'impression que là, j'absorbe beaucoup. Et pour rejoindre Daniela et Mariana, y a aussi une fatigue, mais qui est heureuse, hein, mais une sorte de beaucoup d'informations qui arrivent. Et d'une certaine manière, j'ai l'intuition que c'est plus dans l'après-coup que ça va mieux se tisser, quoi. J'ai cette impression-là. Parce que c'est vrai qu'on rentre, bah, on discute aussi encore. Et il y a un peu en permanence des échanges et une stimulation très grande, quoi.
Et maintenant, une petite pause musicale et vous verrez une petite réponse à l'interlude de Sting.
Maman, je pense à toi, je t'écris d'un 3 étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque derrière. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain.
En fait, on a posé des questions aux stagiaires et ce serait bien que nous, on réponde à leurs questions pour que ça soit réciproque, pour qu'on donne aussi notre avis sur leurs questions. Voilà.
Oui, bon, j'ai une question pour vous parce qu'on vient ici pour un mois, pour 2 semaines, pour partager avec vous, pour apprendre de la manière où vous travaillez, vous vivez. Vivre ensemble. Et j'ai eu la question depuis le début de qu'est-ce que c'est qu'on peut vous apporter, s'il y a une chose qui est importante pour vous, dès que les stagiaires viennent ici, s'il y a quelque chose qui peut se passer pour notre présence ou pas, comment on peut être importante pour vous, comme vous êtes importante pour nous.
En fait, les stagiaires qui viennent de l'étranger, comme vous, apportent beaucoup de soleil, ça faut le dire. Déjà, non seulement par votre écoute, votre attention, votre compréhension, les dialogues qu'on peut avoir avec vous, peu importe si vous êtes là à longue durée ou à courte durée, mais vous nous apportez beaucoup de soleil à travers votre intérieur et extérieur également. Et nous espérons aussi vous apporter autant. Voilà.
Eh ben, moi, ce que j'aime bien, surtout quand il y a des stages d'été, c'est que c'est la culture qu'on apprend. Bon, moi, je suis une boulimique du savoir. J'aime bien connaître, apprendre, échanger, rencontrer. Et franchement, ça fait vraiment du bien d'avoir des stagiaires qui nous apprennent des choses comme ça. Rien que le groupe cuisine d'été, où on a appris de la cuisine du Chili, on a appris de la cuisine du Brésil. Demain, ils vont apprendre de la cuisine des Comores. C'est un métissage. J'aime bien le métissage.
Peut-être qu'aussi ça nous fait du bien de savoir aussi que dans d'autres endroits du monde, dans des endroits des fois éloignés ou des fois très proches, il y a une certaine possibilité de pratique d'une forme de soins humains. Vous puissiez aussi nous dire que c'est possible aussi ailleurs et voilà, et qu'il y ait comme ça des ouvertures beaucoup plus larges, intéressantes, puis des rencontres aussi, hein, après. Peut-être, voilà, puis des espaces de circulation par communication, par courrier, par téléphone, par, voilà, de fait qu'on puisse lutter un petit peu ensemble, un peu partout dans le monde, d'une certaine manière, quoi.
Bah oui, moi j'aime bien, ça m'apporte beaucoup aussi de voir des étrangers qui viennent ici en France, de par la nourriture, de par, je sais pas, les chansons, des fois, quand des stagiaires viennent ici, on parle de films, on parle de... Et ça fait connaître d'autres choses que ce qu'on connaît, nous, en France.
Hier, on a parlé de la question, justement, de l'image de l'étranger. Qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il attend? Et j'étais agréablement surprise du niveau politique que vous parlez sur la question de la psychiatrie. Et je me demande si cette même attention que vous donnez à des stagiaires qui viennent d'ailleurs, si vous faites la même chose avec des personnes qui sont pas forcément stagiaires, mais qui sont là et qui viennent d'ailleurs, comment vous faites pour intégrer la multiplicité des vécus et des parcours qu'on rencontre dans le centre Arthur?
Eh ben, on fait des événements, on fait des barbecues, on fait des fêtes d'été, on fait des fêtes de Noël, on fait des moments pour se rassembler. Et aussi, on fait des événements où on se déplace pour aller à Paris, il y en a qui vont à Marseille. L'année prochaine, on ira peut-être à Lille pour parler d'Arto, pour le vivre ensemble. Et c'est par les événements, par les rencontres.
Mais quand on va, comme disait Alice, ailleurs, et notamment avec le club thérapeutique, pour parler de l'intérêt politique cette fois, clairement, le club thérapeutique est pour nous l'outil évidemment qui nous permet de faire différentes choses et d'avoir à la fois des phases d'agrément, mais aussi de cohésion au sein du centre Arto. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand on se déplace pour faire justement la promotion de cette pratique du club, avec ce sous-entendu politique de ce qui est le club, à savoir l'égalité, nous allons sur le plan politique essayer de défendre un soin humaniste, un soin qui nous soigne, qui réellement nous fait du bien. Voilà. Et donc l'intégration de chacun, elle se fait vraiment au niveau de chacun, au rythme de chacun, et elle se fait au fil du temps et au fil des événements.
Je peux peut-être essayer de donner un semblant de réponse, puis ça me permettra aussi, il y a quelqu'un dans la salle aussi qui propose que en fait, c'est aussi le lien de confiance qui est important entre patients et soignants pour pouvoir s'accueillir l'un et l'autre, hein, j'imagine que c'est ce que vous vouliez dire, et que ça prend du temps, hein, que ça prend du temps et de beaucoup d'énergie et de force voilà, entre l'un et l'autre. Bon.
Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non ! Vous écoutez toujours Arto Didacte sur Radio Primitive. Poursuivons l'interview de Flore.
Je me demandais si par le centre, la vie du centre, les activités, vous aviez des expériences de rencontres non humaines.
Ben, en matière de non-humanité, on a rencontré des équidés plusieurs fois, dans le sens où on avait fait des sorties autour du cheval. Sinon, un autre type de rencontre non humaine, c'était avec l'intelligence artificielle et avec le fameux jeu qui s'appelait Bipolar One ou je sais plus quoi, qui était un jeu dans lequel on incarnait, par le biais d'un avatar, on devait réinterpréter sa vie à l'intérieur d'un logement et tout ça. Voilà, c'est les deux seules rencontres non humaines que j'ai fait. Et puis une autre encore, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, à Reims, pendant les semaines de la folie ordinaire, mais au niveau officiel, semaine d'information santé mentale. Il y a là un grand professeur de psychiatrie qui veut nous présenter, pareil, tout un tas de petits instruments non humains qui visaient à notre bien-être, à notre réhabilitation psychosociale et à notre éducation thérapeutique. C'était par exemple sous forme d'un petit pingouin qu'on pouvait caresser quand on était un peu en détresse mentale. Et le petit pingouin interactif apportait des réponses, des clignotements d'œil, des petits tremblements, parfois des petits mots. Bon voilà, ce sont des rencontres qui finalement ne sont pas tellement satisfaisantes. Ici, c'est quand même l'humanité qui prime. On aime bien aussi les chevaux, les oiseaux et les lapins. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Les papas pingouins. Alors j'ai deux sens, j'ai retenu deux sens à la question non humaine. Alors comme expérience non humaine, on était allé plusieurs fois dans les environs de Reims pour sauver des grenouilles. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il fallait en fait aider les grenouilles qui étaient dans un côté de la route. Il fallait les aider à traverser la route pour pas qu'elles se fassent écraser. Et on les remettait de l'autre côté de la route. Et dans une autre situation non humaine, c'est ça qui m'est venu en premier avant que mon collègue intervienne. Et en fait, on avait eu une expérience non humaine à Arto avec un stagiaire qui n'approuvait pas du tout la façon de travailler d'Artaud. Et ça n'a pas raté, parce que ce stagiaire-là, qui était un interne, je crois, qui voulait devenir psychiatre, eh ben, il n'est pas resté longtemps à Artaud parce qu'il ne supportait pas la manière dont on travaillait. Une fois, il y avait une réunion à la mairie, ça devait être pour la santé mentale, comme ça se fait, et en fait, les gens étaient en train de parler, et tout d'un coup, il a pris la parole et il a dit « mais fou ». Et là, tout le monde dans la salle s'est regardé et il a dit « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Oui, il dit « oui, mais fou, moi, mais fou, je les traite comme ça ». Et il y avait, enfin voilà, l'expérience non humaine dont je voulais parler.
Donc pour sous-titrer, parce que on a discuté à plusieurs reprises lors de du montage de l'émission, de cet échange et de ce que voulait dire Alice, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était infantilisant au minimum, voire déshumanisant, comme ça, de qualifier les personnes qui sont suivies par un interne, que cet interne vienne dire « ce sont mes fous ». Ça paraît extrêmement maladroit et ça signe quelque chose d'un rapport très asymétrique et d'une vision du monde finalement assez étroite. Voilà, donc c'est après discussion, on se dit que c'est important de pouvoir le préciser.
Artaudidacte, c'est des contrats.
Ça rappelle l'importance de pouvoir mettre au travail certaines questions et notamment dans des espaces qui y sont dédiés. Donc, on vous propose de présenter les actualités de la psychiatrie après un interlude musical.
Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris.
Et maintenant, un petit point sur l'actualité en psychiatrie.
Alors, par rapport à l'actualité de la psychiatrie, alors je pensais au TRUC, qui est le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs, ou qui réunit tous les clubs. C'est une réunion où chacun parle de sa propre expérience et on se rend compte qu'à Artaud, on a beaucoup de chance. Il y a les forums du truc, mais je n'ai pas encore assisté aux forums du truc.
Les forums du truc, on fait des réunions interclubs à peu près deux fois par an et tous les deux ans, on organise. Il y a un des clubs parmi les 15 ou 20 qui composent ce terrain de rassemblement. Il y a un des clubs ou deux qui prennent en charge l'organisation d'un forum, où là on se retrouve vraiment en plus grand nombre. Par exemple, les réunions intermédiaires, on est jusqu'à une centaine à peu près à chaque fois. Et par contre, au forum, il nous arrivait d'être jusqu'à 400. Je repense au T2G il y a quelques années, à Gennevilliers, ou ce forum, ou même à Chambord, on était 300. Enfin voilà, ce sont donc des gros événements, les forums. Et les organisateurs prennent en charge donc l'organisation de la journée, donc le buffet du midi, mais aussi les débats du matin, et puis les activités partagées de l'après-midi qui peuvent être autour des journaux, des différentes radios organisées par les clubs, voire une friperie, aussi une bourse aux livres. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place pendant les forums.
Il y a eu aussi les assises citoyennes de la psychiatrie.
Les assises citoyennes du soin psychique pour s'étendre de la psychiatrie également au médico-social et à la prison.
Les assises, oui, il y a eu cette année la troisième édition de ces assises. La première édition, c'était donc en 2013, la deuxième en 2022, et puis cette troisième édition en 2024. Ça s'est passé à la Bourse du Travail. C'est organisé par un collectif qui s'appelle le Printemps de la Psychiatrie, qui est né d'autres collectifs qui se sont rassemblés. Alors, il y avait eu le collectif des 39, l'appel des appels, et plein d'autres que je ne peux pas nommer là, mais dont le collectif Artaud fait partie intégrante depuis le début, on peut dire même depuis les origines quasiment. Ça a commencé vers 2006-2008. Les enjeux politiques sont venus un peu sur le tapis. Et puis voilà, à partir de là, il y a tout un tas de collectifs qui se sont créés un peu partout, jusqu'à aboutir là, en 2024, à ces nouvelles assises, où pendant deux jours, des intervenants, des sociologues, des écrivains, aussi des gens de la culture, et puis évidemment des professionnels et quelques patients sont intervenus pour animer des débats autour des questions d'actualité.
Et après, il y a eu la réunion post-assise qui s'est passée il n'y a pas longtemps, là, c'était en juin, fin juin, non ? Et cela va continuer avec le 8 septembre, où il y aura des réunions du printemps de la psychiatrie. Cette année, on a été invité par Olivier Bresson pour participer à Sonic Protest. Mais malheureusement pour nous, les soignants avaient une réunion à la Criée le samedi, ce qui a fait qu'on n'a pas pu faire un concert de la fanfare et montrer nos talents à tous. Donc merci, un big up aux soignants. Hein. Et ce qui était bien à Sonic Protest, c'est qu'on avait eu un temps exprès pour nous, pour Arto, pour expliquer comment fonctionne Arto, le GEM, le crayon, etc., le concert du studio, ce que c'était, qu'on allait faire un album, peut-être pas tout de suite, mais c'était génial. Et quand on est arrivé à Sonic Protest au festival, en fait, il y avait un groupe de musiciens qui étaient autistes et qui faisaient un concert dans la salle. C'était une salle qui, d'apparence de l'extérieur, c'était banal, mais en rentrant dedans, c'était hyper grand, avec une salle de concert. Enfin, c'était vraiment bien. C'était génial. Et il reste, il y a aussi les concerts. Il y a eu des concerts du studio.
Peut-être juste rappeler, Alice, que Sonic Protest, c'est un festival donc, du coup, qui rassemble l'art brut et puis les soins et la musique brute et la musique punk. Hein, voilà. Et on y était allé, c'était un fort moment, un moment vraiment très fort pour nous et de belles rencontres.
Et d'ailleurs, c'est un festival qui avait sous cette forme, c'était sa dernière année, mais on a eu la promesse d'Olivier Brisson qui était venu pour une précédente soirée de la SDLFO. On a eu la promesse d'être invité pour pouvoir y aller y jouer avec l'atelier studio et peut-être la fanfare à voir. Ouais. Ça ne s'appellera plus Sonic Protest. En revanche, les organisateurs seront en partie les mêmes et ça aura lieu à Lille plutôt qu'à Paris.
Et une petite page sportive par Tony.
Donc du coup, pour la France, on est arrivé en 5e place aux Jeux Olympiques. 5e place avec 16 médailles d'or, derrière l'Australie 18, le Japon 20 médailles, la République populaire de Chine 40 et les États-Unis d'Amérique 40. Sachant que les États-Unis, à égalité avec la Chine en nombre de médailles d'or, finissent quand même premiers avec, parce qu'ils ont 126 médailles en tout contre 91 pour la République populaire de Chine. Alors pour le détail un petit peu du déroulement de ces Jeux olympiques, là où semble avoir fonctionné le plus la France quand même, c'est du côté de la boxe avec deux médailles d'argent, une médaille de bronze pour un total de 3 médailles. On en a eu beaucoup aussi en canoë kayak slalom avec une médaille d'or, 2 médailles d'argent. Le cyclisme BMX Racing avec une médaille d'or, une d'argent, une de bronze. Et surtout l'escrime avec 7 médailles dont une en or. Le judo avec 10 médailles dont 2 en or. La natation avec 7 médailles dont 4 en or. Voilà pour les principaux sports auxquels on a bien marché.
Malheureusement, pour ces JO-là, on attendait l'athlétisme français parce qu'on est fort en athlétisme d'habitude, mais cette année, franchement, c'était plus compliqué que prévu.
Pour les Paralympiques, du coup, la Chine est toujours en tête avec 45 médailles d'or. Ensuite, on a le Royaume-Uni avec 29 médailles d'or, les États-Unis avec 15 médailles d'or, le Brésil 13 médailles d'or, la France qui n'est pas en reste avec 11 médailles d'or, l'Australie ensuite avec 9, l'Italie avec 8, les Pays-Bas 7. La France est donc 5e dans le classement de total des pays. On ne pourra pas vous donner la suite des résultats puisque les Jeux sont encore en cours actuellement. On vous invite donc à vous renseigner par vous-même.
Quoi? Orthodidacte? Exact.
Orthodidacte, c'est des contractes.
Orthodidacte, c'est des contractes.
Grâce à Orthodidacte, on a la patate.